Alors aujourd'hui, je vais vous lire dans l'agenda de mer du 21 juillet 1962, l'Adedom, une lettre de Sri Aurobindo à son frère Barin du 7 avril 1920. Alors je vous lis seulement un extrait parce que c'est une très longue lettre, mais je commence par « La particularité de ce yoga est ainsi. Tant que l'on n'a pas obtenu la Siddhi, réalisation, au-dessus, la fondation ne peut pas être parfaite. Ceux qui m'ont suivi ont gardé beaucoup de vieilles empreintes samskara. Quelques-uns ont disparu, mais certaines s'accrochent encore. Il y avait le samskara du sannyasa et même le désir de créer Aravindamath, monastère de Sri Aurobindo. Maintenant, l'intellect a reconnu que le sannyasya, renoncement, n'est pas ce qu'il faut. Mais l'empreinte de l'ancienne idée n'a pas encore été effacée du prana, souffle. Puis, on parlait de rester au milieu du monde comme des hommes d'action mondaine, tout en pratiquant le renoncement. La nécessité de renoncer au désir a été compromise, mais le mental n'a pas réussi à harmoniser correctement la renonciation au désir de la joie, de l'ananda. On a accepté mon yoga parce qu'il s'accordait tout naturellement au tempérament bengali. Mais moins sous l'angle de la connaissance que sous l'angle du karma, des œuvres, et de la bhakti, amour. Un peu de connaissance est entrée, mais la plus grande partie a échappé. Les brumes de la sentimentalité ne se sont pas dissipées. La routine du bhava sattvic, esprit religieux, n'a pas été brisée. L'ego est encore là. En un mot, la connaissance n'a pas fleuri. Je ne suis pas pressé. Je laisse chacun se développer selon sa nature. Ce qui est fondamental sera identique en tous, certes, mais s'expliquera en de multiples formes. Tout être se développe et se forme de l'intérieur. Je ne veux pas bâtir de l'extérieur. La base est là, le reste viendra. Le but que je poursuis n'est pas une société enracinée dans la division comme l'est la nôtre. Ce que j'ai en vue, c'est un sangha, communauté, ayant sa base dans l'esprit et à l'image de son unité. C'est avec cette idée que le nom de Deva Sangha m'est venu, c'est-à-dire la communauté de ceux qui veulent la vie divine. Un sangha de ce genre doit commencer par s'établir en un point, puis se répandre dans tout le pays. Mais si la moindre ombre d'égoïsme vient s'abattre sur l'entreprise, le sangha se changera en une secte. L'idée peut se négliger, peut se glisser tout naturellement que telle ou telle organisation est la seule vraie sangha et l'unique centre futur que tout le reste doit être sa circonférence et que tous ceux qui demeurent à l'extérieur de ses limites sont hors du bercail ou même s'ils sont dedans, qu'ils se sont écartés du droit chemin parce qu'ils pensent différemment. Tu peux dire quel besoin avons-nous d'un sangha? L'important est que je sois libre et que je vive dans toutes les formes. Devenons tous l'un sans forme et arrive ce qui peut au sein de cette immensité sans forme. Il y a là une vérité, mais ce n'est qu'un aspect de la vérité. Nous n'avons pas seulement affaire à l'esprit sans forme, nous devons aussi gouverner le mouvement de la vie. Et il ne peut y avoir aucun mouvement effectif de vie sans une forme. C'est le sans forme qui a pris forme. Et il s'est revêtu du nom et de la forme. Ce n'est pas un caprice de la Maya, l'illusion. La forme est là parce qu'elle est indispensable. Relevons maintenant quelques points particuliers de ta lettre. Je ne peux pas m'étendre ici sur ce que tu as dit de ton yoga. Nous aurons une meilleure occasion de le faire quand nous nous rencontrerons. Considérer le corps comme une carcasse est la marque du sannyasa, de la voie du nirvana. On ne peut pas vivre la vie du monde avec cette idée. On doit avoir la félicité en toutes choses, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Le corps possède une conscience. Il est la forme de Dieu. Lorsqu'on voit Dieu dans tout ce qui est au monde, lorsqu'on a cette vision, tout ceci est Brahman, Sarvam Idam Brahma. À propos du Deva Sangha, tu dis « Je ne suis pas un dieu ». Je ne suis qu'un morceau de fer martelé et passé à la trempe. Personne n'est un dieu, mais en tout homme, un dieu réside. Et le manifester est le but de la vie divine. Ce n'est pas notre force, mais la Shakti, Dieu, qui est dans le sadhaka, l'ouvrier de ce yoga. Je vais te dire rapidement une ou deux choses. À mon avis, la principale cause de la faiblesse de l'Inde n'est pas dans la suggestion, ni la pauvreté, ni le manque de spiritualité ou de dharma moral, mais le déclin de la puissance de pensée, la croissance de l'ignorance dans la patrie de la connaissance. Partout où je vois l'incapacité et la paresse de penser, l'impuissance de la pensée ou la phobie de la pensée. Quels que soient les mérites du Moyen-Âge, cet état de choses est à présent le signe d'une terrible dégénérescence. Le Moyen-Âge était la nuit, l'époque de la victoire de l'ignorance. Le monde moderne est à l'époque de la victoire de la connaissance. Celui qui pense le plus, qui cherche le plus, qui travaille le plus, celui-là peut sonder et apprendre la vérité du monde et acquérir d'autant plus de Shakti, force. Si tu regardes l'Europe, tu verras deux choses. Un vaste océan de pensée et le jeu d'une force énorme, rapide et pourtant disciplinée. Toute la Shakti de l'Europe tient à cela. Et par la force de cette Shakti, elle a dévoré le monde. Comme nos Tapashwins à Seth, de jadis dont le pouvoir terrifiait même les dieux et les tenait dans l'inquiétude et la soumission. On dit que l'Europe court à sa perte. Je ne le pense pas. Toutes ces révolutions et ces bouleversements sont les conditions préliminaires d'une création nouvelle. Mais pour obtenir cette Shakti, Il faut être un adorateur de la Shakti. Nous ne sommes pas des adorateurs de la Shakti. Nous sommes des adorateurs de la voie facile. Mais la Shakti ne peut pas s'obtenir par la voie facile. Nos ancêtres ont plongé dans un océan de vastes pensées. Ils ont acquis une immense connaissance et édifié une puissante civilisation. Chemin faisant, la fatigue et la lassitude se sont abattues sur eux. La force de pensée a diminué avec elle le puissant courant de la Shakti. Notre civilisation est devenue un achalayatan, une prison. Notre religion, une bigoterie des principes extérieurs. Notre spiritualité, une lueur confuse ou une vague passagère d'ivresse religieuse. Tant que cela dure, toute résurrection permanente de l'Inde est improbable. Nous avons abandonné la sadhana de la Shakti et la Shakti nous a abandonnés. Nous faisons la sadhana de l'amour, mais quand il n'y a ni connaissance ni Shakti, l'amour ne peut pas demeurer. L'étroitesse et la mesquinerie prennent la place. Dans un mental étroit et mesquin, il n'y a pas de place pour l'amour. Où est l'amour au Bengale? Il n'y a plus que des querelles, des jalousies, d'antipathies mutuelles, d'incompréhensions, de fractions qui partout ailleurs, même en cette Inde, s'y affligeaient par la division. À l'époque héroïque et noble du peuple aryen, rien, c'était au temps védique, il n'y avait pas tant de bruit, de cris et de gesticulations, mais leur entreprise restait inébranlable pendant des siècles. Les entreprises des Bengalis ne durent qu'un jour ou deux. Tu dis qu'il faut un fol enthousiasme pour remplir le pays d'excitation émotive. Au temps de Swadeshi, lutte pour l'indépendance, boycott des produits anglais, nous avons eu tout cela dans le monde politique, mais ce que nous en avons fait est maintenant tombé en poussière. Par conséquent, je ne peux plus prendre pour base l'excitation émotive, ni quelques ivresses mentales. Je veux fonder le yoga sur une vaste et puissante équanimité, sur une égalité. Je veux que s'établisse une Shakti complète, ferme, inébranlable dans l'organisme et dans tous ses mouvements. Je veux une large manifestation de la lumière, de la connaissance au sein d'un océan de Shakti. Je veux dans cette lumineuse immensité la tranquille extase de l'amour, de la félicité et de l'unité infinie. Je ne veux pas avoir des centaines de milliers de disciples. Si je puis trouver une centaine d'hommes complets, purifiés du petit égoïsme et qui seront les instruments de Dieu, ce sera suffisant. Je n'ai aucune foi en le vieux métier de gourou. Je ne veux pas être un gourou. Si quelqu'un éveille et manifeste l'intérieur de sa divinité endormie, et s'il arrive à la vie divine, que ce soit par mon contact ou celui de quiconque, c'est ce que je veux. Ce ne sont pas ces hommes-là qui relèveront le pays. Ne t'imagine pas d'après ce discours que je désespère de l'avenir. Moi aussi, comme ils le disent, j'ai l'espoir qu'une grande lumière se manifestera cette fois en Inde. Mais j'ai essayé de montrer le revers de la médaille où est la faille, l'erreur, la déficience. Si cela persiste, la lumière ne sera pas une grande lumière et elle ne sera pas permanente. Je termine avec ce dernier, ces quelques lignes. La raison de cette lettre extraordinairement longue est que moi aussi, je boucle mon sac. Je crois que ce sac-là sera comme le filet de Saint-Pierre, plein à craquer de seules captures de l'infini. Je ne vais pas ouvrir mon sac maintenant. Si je le faisais avant le temps, tout s'échapperait. Je n'ai pas non plus l'intention d'aller au Bengale pour le moment. Non pas parce que le Bengale n'est pas prêt, mais parce que moi, je ne suis pas prêt. Un homme insuffisamment mu parmi des hommes insuffisamment mûrs, quel travail peut-il faire ? Sri Aurobindo, ton Sejan.
Thank you.